Manuel Bompard, je suis directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
Faut-il, selon vous, réguler la collecte et l'usage des big data ?
Bah, si vous voulez, le numérique, c'est à la fois, ça fournit à la fois de nombreuses potentialités. On peut faire beaucoup de choses. Ça réduit les frontières de l'espace et du temps. Bon, je crois que c'est quelque chose qui nous enthousiasme. Et en même temps, on sait aussi qu'il y a des usages qui peuvent en être faits, qui sont des usages dangereux. Donc, c'est sûr qu'il faut être raisonnable de ce point de vue-là. Nous, ce qui nous choque et ce qu'on souhaite réglementer, c'est tout ce qui est usage commercial des données privées. Ça, c'est clair que c'est une évidence. Deuxième chose, il y a des règles qui sont aujourd'hui les règles de la CNIL qu'il faut faire respecter, donc avec lesquelles à laquelle il faut fournir sans doute davantage de moyens et de personnel. Donc voilà, clairement, on est favorable aux potentialités qui sont offertes par le numérique. Hein, nous, y compris dans la campagne, on utilise beaucoup les outils numériques, mais on reste vigilant sur le respect des libertés personnelles et individuelles qui sont, à notre avis, indispensables. Voilà.
Faut-il encadrer la robotisation et l'intelligence artificielle dans le monde du travail ?
Je ne crois pas qu'il faille les encadrer. Par contre, il faut se poser la question de savoir qui en profite. Aujourd'hui, clairement, ce qu'on peut appeler l'amélioration des gains de productivité, hein, qui sont dus à la mécanisation du travail, et donc à l'utilisation, y compris maintenant, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, ces gains de productivité, trop souvent, ils profitent aux actionnaires des grandes entreprises et assez peu aux salariés. Donc la question, par exemple, n'est pas de savoir est-ce qu'on devrait limiter le nombre de caisses automatiques dans les supermarchés. La question est pourquoi la mise en place de ces caisses automatiques ne profite pas aux salaires, aux conditions de travail, à la fin des horaires fractionnés des personnes qui travaillent dans ces supermarchés et qui ont des conditions de travail qui sont des conditions de travail déplorables. Donc pas forcément les encadrer, mais faire en sorte que les gains de productivité qui sont induits par l'utilisation de la robotisation ou de l'intelligence artificielle profitent effectivement aux salariés.
Quelle est la vision, quelle est la vision de Jean-Luc Mélenchon ? Quel travail, selon vous, pour l'homme de demain ?
C'est sûr que c'est cette politique de robotisation. Nous, on souhaite que ça puisse remplacer les travaux qui sont aujourd'hui les travaux les plus difficiles pour l'être humain. C'est ça l'histoire de l'humanité, par ailleurs. Hein. On a inventé le tracteur pour faciliter les travaux harassants qui étaient les travaux des champs. Donc il faut que ça permette, si vous voulez, l'évolution de l'humanité. Et l'évolution de l'humanité, ça passe par le fait qu'on utilise la technologie dans un premier temps, pour se substituer au travail humain dans les tâches les plus ingrates. Alors, qu'est-ce que ça repositionne sur le travail de demain ? Ben, d'abord, ça permet des gains de productivité. Donc, à partir de ce moment-là, il faut moins d'êtres humains aujourd'hui pour produire davantage de richesses que ce qu'ils étaient il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. Donc, c'est pour ça que dans le programme, on souhaite des mesures qui vont vers la réduction du temps de travail, en commençant par l'application immédiate et concrète des 35 heures. Aller vers une sixième semaine de congés payés, en tout cas aller vers en sorte que l'être humain aujourd'hui, de par la mécanisation, la robotisation, le progrès et la capacité de formation aussi, hein, parce que c'est pas que les machines, c'est aussi les êtres humains qui sont davantage productifs car mieux formés, plus compétents, que tout ça profite aux salariés dans la réduction de leur temps de travail, davantage de temps aussi pour se consacrer à des activités qui soient des activités associatives, d'intérêt général. Donc voilà, le travail de demain, c'est sans doute un travail qui est un travail moins usant, moins ingrat, plus émancipateur, avec un temps de travail qui est un temps de travail plus limité, avec davantage de temps pour se consacrer à des activités qui sont des activités d'intérêt général. Voilà, c'est un beau projet pour les êtres humains.
Quelles mesures éducatives faut-il mettre en place pour fournir la culture numérique aux citoyens de demain ?
C'est sûr que le numérique aujourd'hui est devenu incontournable dans notre société, et comme je le disais tout à l'heure, même s'il y a des risques inhérents à l'utilisation du numérique, il y a aussi de formidables opportunités. Donc clairement, nous, on est favorable à la formation numérique dès le plus jeune âge. On est favorable et on ne méprise pas d'outils du tout, par exemple. C'est une caractéristique de notre campagne, tout ce qui est autour de l'industrie des jeux vidéo, qui sont des formidables vecteurs culturels, éducatifs. Alors bien sûr, dans lesquels il faut réglementer la violence, tout ça, mais qui peuvent être, en tout cas, s'ils sont utilisés avec intelligence et discernement, des vrais moyens de formation et d'enrichissement, d'enrichissement des jeunes. Et puis pour que, mais c'est pas de la formation, mais pour que tout le monde ait un accès au numérique, il faut aussi enfin des politiques ambitieuses. C'est pas normal que dans un pays évolué comme le nôtre, il y ait encore des zones qui soient exclues d'Internet ou du haut débit. Donc nous, on est favorable à se fixer un objectif de 2022, la fin du mandat, pour que l'ensemble du territoire national ait accès au très haut débit Internet.
Selon Jean-Luc Mélenchon, faut-il poursuivre les recherches en biologie de synthèse et en génie génétique?
Pourquoi il y a des gens qui proposent pour bien comprendre votre question, je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas poursuivre ce travail de recherche. De toute façon, le travail de recherche qui permet de mieux comprendre le génome, l'être humain, est un programme de recherche qui est un programme de recherche toujours utile, qui nous fournit de multiples enseignements pour l'avenir. Donc bien sûr qu'il faut toujours poursuivre ce type de programme de recherche. Le problème, c'est pas le programme de recherche. Après, le problème, c'est l'utilisation qui peut en être faite. Et on peut tout à fait, c'est notre cas, être favorable au programme de recherche, y compris en biologie moléculaire, par exemple, et en même temps s'opposer à l'utilisation des OGM. Je crois que c'est une position qui est une position compréhensible, raisonnable. Ne surtout pas empêcher le travail de recherche qui est formidable pour l'être humain, mais en même temps empêcher que ça conduise à l'utilisation, qui sont des utilisations dangereuses pour les êtres humains.
Le transhumanisme est-il selon vous un progrès ?
Le transhumanisme pour vous, c'est la prolongation de la durée de l'espérance de vie, c'est ça ? C'est ça que vous appelez transhumanisme ?
L'homme augmenté.
Si vous voulez, on fait une petite pause, mais je comprends pas la question. Qu'est-ce que le transhumanisme pour vous ?
Le transhumanisme, c'est l'augmentation de l'homme, la longévité, ça comprend différentes possibilités de...
C'est pas que l'espérance de vie, c'est okay, y compris des modifications de l'être humain.
Il y a des définitions larges aussi du transhumanisme, mais oui.
Bon, alors c'est une question qui est une question complexe, parce que tout dépend de la définition du terme lui-même. En tout cas, moi, il me semble que... l'augmentation, l'allongement de l'espérance de vie, c'est un point positif pour l'humanité. Et d'ailleurs, c'est le résultat d'un certain nombre de politiques qui ont été mises en place, des progrès qui ont été des progrès dans le domaine de la santé, de la réduction du temps de travail aussi, qui permet des vies qui sont des vies moins harassantes. Donc de ce point de vue-là, tout ce qui permet d'allonger la durée, l'espérance de vie humaine me paraît être un aspect positif. Après, si dans le transhumanisme, on inclut aussi des modifications génétiques, des croisements avec des technologies d'intelligence artificielle, là, je serais un peu plus vigilant sur les définitions précises des termes et les conséquences que ça peut avoir, y compris sur l'avenir de l'humanité. Bon, la technologie offre de formidables opportunités sur, par exemple, les cœurs artificiels, des choses comme ça qui me paraissent être des éléments extrêmement intéressants. Donc, en fonction je serais un peu plus mesuré sur cette question parce que je crois qu'en réalité, elle dépend un petit peu du contour exact de ce qu'on appelle transhumanisme. La technologie de manière générale n'est pas en fait positive ou négative en soi. Elle peut toujours être positive si elle est utilisée dans le sens de l'intérêt général, de respect de l'environnement et de l'écosystème. Elle peut être négative si elle est fournie à de la cupidité, à la recherche obsessionnelle du profit, et elle peut donc se retourner contre l'humanité elle-même. Donc il faut toujours être vigilant, je crois.